Je viens maintenant à notre journée et je suis heureux de donner la parole à Stéphane Rollet, qui est maître de conférence au département de littérature française de l'Université de Paris 8 et spécialiste d'Andrea Alciato. Il a notamment publié, dirigé des volumes Andrea Alcia, un humaniste au confluent des savoirs dans l'Europe de la Renaissance, l'emblème littéraire théorie et pratique, un numéro spécial de la revue Littérature, et aussi l'image de l'éléphant dans justement les hiéroglyphica de Valeriano, paru dans Studi di erudizione e filologia italiana. Donc il est parfaitement au centre de nos intérêts de ce matin. Je suis heureux de lui donner la parole.
Tout d'abord, je remercie Jean-Luc de m'avoir invité. Je le remercie doublement que vous voyez un titre qui n'est pas celui qui est sur le programme, car il m'est arrivé une mésaventure assez unique. En fait, je travaillais sur un manuscrit d'Albericus qui est totalement inédit, personne n'a jamais travaillé dessus, sauf que si quelqu'un a travaillé dessus, et l'article est paru il y a très peu de temps, en tout cas j'en ai eu connaissance il y a très peu de temps, ce qui fait que j'ai proposé une nouvelle solution, en quelque sorte, que Jean-Luc a eu l'amitié d'accepter. Alors que nous arrivons bientôt au sixième centenaire de sa redécouverte par Cristoforo Buondelmonte, je m'intéresse en ce moment aux traductions latines d'Aurapollon, antérieures à l'édition Princeps chez Alde en 1505, mais également à celles précédentes, celle de Trebassus de 1515 et celle de Fasanini de 1517. Il est en effet curieux de voir d'une part qu'il existe plusieurs traductions restées inédites et nettement antérieures à ces deux dates importantes, 1505 et 1515, et d'autre part, qu'il y a soudain comme une concurrence de traductions au moment du passage à l'impression. On a pu lire qu'il existait de nombreuses traductions manuscrites latines d'Aurapollon. Sandra Saider en compte trois complètes, deux anonymes, celle de Valla dont je vais parler aujourd'hui, trois partielles dues à Syriac, il ne reste que des lambeaux, un certain Bonifacius qu'on ne connaît pas mieux, et à Pirkheim. Il n'y a que celle de Syriac, qu'on peut dater à peu près, vers 1436, celle de Valla, qui est antérieure à 1500 années de sa mort, et celle de Pirkheimer, qui est de 1512. Les autres ne sont pas vraiment datables de façon fiable. Ainsi, avec la traduction procurée par, je remets les dates importantes, avec la traduction procurée par Valla, nous nous trouvons devant la seule traduction complète conservée aujourd'hui, après exister indubitablement à l'édition Princeps de 1505. Sur Giorgio Valla, peut-être que tout le monde ne connaît pas beaucoup de choses. On connaît mieux, évidemment, Lorenzo. En fait, c'est un érudit tout à fait important, qui est né près de Piacenza en 1447, qui étudie à Milan, qui va rester une vingtaine d'années, professeur de rhétorique et de grec à Pavie. Puis il va se déplacer à Venise, où il mourra en 1500. Quasiment des suites d'un emprisonnement abusif, puisqu'il a été accusé de trahison au profit des Français, ce qui, semble-t-il, était faux. Et celui qui le découvre mort, un de ses étudiants, c'est justement Piero Valeriano, dont Monsieur le Président nous parlait juste avant. Alors, la traduction qui nous occupe nous a été transmise par deux copies manuscrites, l'une conservée à Milan, dans la Bibliothèque Tribultiana, et l'autre au Vatican. Les deux copies sont de la main de Cademosto, qui est le fils adoptif de Giorgio Valla, et qui va essayer de faire paraître les œuvres de son père, qui était vraiment une espèce de polygraphe qui a voulu rassembler tout le savoir scientifique dans un seul énorme ouvrage qui était le De Expectendis Rebus, que son fils réussit à faire publier. Il n'a pas eu la même chance avec Aurapollon. Il l'a dédié donc deux fois, une première fois à Gian Giacomo Trivulzio et une seconde à Hercule de Gonzague, cardinal de Mantoue. Alors, la première traduction est légèrement postérieure à 1508, oui, et la seconde à 1527. Pour tout un ensemble de raisons, la seconde copie, je vais la laisser de côté, elle est en fait faite sur la première et elle n'a pas beaucoup d'intérêt pour ce qui nous occupe aujourd'hui. La première copie est donc beaucoup plus intéressante. Dans la préface, le Cademosto évoque une victoire de Trivulzio sur les Germains, et cette victoire, ça fait longtemps que... les témoins sur le manuscrit le disent, ça place en fait l'ouvrage, ça place la dédicace, en fait, après 1508, comme je le disais tout à l'heure. Cette première dédicace témoigne d'un certain sens de l'opportunité, puisque ça fait à peine plus de 2 ans que, en 1508, Hald a donné l'édition Princeps d'Or Apollon, et qu'il n'existe toujours pas, à ce moment-là, sur le marché du livre, de traduction latine. Et le texte or apollinien est toujours auréolé de son mystère, enfin, mystère de son nom hiéroglyphique, et du nom de son auteur. Pourquoi est-ce que la traduction n'a pas abouti à publication ? Nul ne le sait. En tout cas, elle avait été préparée pour la dédicace. La dédicace a visiblement eu lieu, vous voyez. Il y avait un effort certain attaché à la page de titre, mais ça n'a pas suffi. Alors, il n'en demeure pas moins que nettement antérieure à l'édition Princeps, et plus encore aux premières traductions latines publiées, celles de Trebasius et Fasanini, cette traduction conserve un intérêt certain. Je n'aurai pas le loisir de m'interroger aujourd'hui sur ses qualités propres comparativement à celles qui vont lui succéder dans le temps. Cela fait l'objet d'un travail que je mène par ailleurs. Je m'intéresserai ici surtout à une question préalable essentielle. Est-il possible de savoir sur quel texte Valla s'est fondé pour réaliser sa traduction latine ? Je vais tenter de montrer que la réponse à cette question simple peut avoir des implications sur ce que nous savons par ailleurs du texte d'Or Apollon. À partir de quel texte donc et de quel manuscrit Valla a-t-il rédigé sa traduction d'Or Apollon ? Pour tenter de répondre à cette question, il faut revenir très brièvement à l'histoire du texte, en commençant par la liste des manuscrits conservés de l'œuvre. J'ai reproduit ici très rapidement le stemma. Vous voyez, il y a 3 familles, alpha, bêta, AH. Donc, première famille de 6 manuscrits, seconde famille de 4 manuscrits. J'ai noté en gras le manuscrit V, qui est celui de Bessarion, conservé à la Marciana. Et qui, pourquoi je l'ai noté ainsi ? Parce que tout simplement, c'est le manuscrit qui a le plus, enfin, c'est quasiment le seul manuscrit qui est servi pour les éditions antérieures à l'édition Lémance, donc du 19e, et plus encore à l'édition Sbordone, qui est le premier à utiliser les 12 manuscrits. Le 13e de Copenhague, je l'ai mis dans la famille Beta, parce que d'après les sondages que moi j'ai pu faire, en fait, il relève très vraisemblablement de cette famille. Et comme Jean-Luc le disait, c'est un manuscrit extrêmement tardif. 2 manuscrits qui donc, constituent une dernière famille, plus proche donc, de alpha que de bêta, et un manuscrit fragmentaire que je note ici parce qu'il est très important, en fait, on verra plus tard. 2 folios, simplement, qui reproduisent les 10 premiers hiéroglyphes d'Or Apollon. Alors, à partir de ces connaissances, je dirais, de base, voyons la suite. La suite, en fait, nous est apportée par deux témoins, 2 documents, qui nous indiquent ce qu'il y avait comme Or Apollon dans la bibliothèque de Valla. Donc, grâce à une lettre de Pic à Valla et à 2 listes, nous avons la chance de savoir plus. Comme nous l'apprend cette lettre, Valla conservait dans sa bibliothèque un volume rassemblant au moins Or Apollon et les gloses sur Platon. Alors, si jamais tu veux faire quelque chose pour moi, dit-il, donc mon cher Georges, confie au porteur de cette lettre le livre suivant à mon intention, le De Musica d'Augustin, Horus, et il ne dit pas Or Apollon, Horus, ou les lettres sacrées des Égyptiens, c'est une traduction directe des hiéroglyphiques, et il dit, ça c'est très important pour nous, idem enim glossemata in Platonem, quae imprimis desiderum. Nous avons donc l'assurance qu'il a ce manuscrit, ce texte d'Or Apollon, qui est vraisemblablement l'actuel Laurentianus Pluteus 80-20, qui a appartenu à Filelfo, puisque c'est le seul des manuscrits aujourd'hui conservés à contenir à la fois Or Apollon et les gloses sur Platon. Mais Valla a également possédé, ce que j'ai découvert en l'occurrence, un 2e volume contenant Or Apollon, recueil dont la trace a été retrouvée en 2 temps, mais la jonction entre les 2 n'avait pas été faite. Dans l'index Librorum Graecorum de la bibliothèque de Pio,
dont on sait que beaucoup de ses manuscrits grecs proviennent de la bibliothèque de Valla et ont été achetés immédiatement après sa mort, on trouve la description d'un volume contenant les textes suivants. Donc il y a Psellos, Aurapollon, etc. Vous avez la liste. Son appartenance antérieure à la bibliothèque de Valla a cependant pu être prouvée grâce à une autre source, la liste des desiderata établie vers 1490-1491 par Jean Lascaris dans ses recherches de manuscrits grecs pour combler les manques de la bibliothèque des Médicis. Lascaris passe en revue les manuscrits de Valla et note en passant ce qui l'intéresse. Et donc ne note pas ce qui ne l'intéresse pas pour chacun des volumes. Et si nous confrontons en fait les descriptions de ces deux documents, l'inventaire de Pio et la liste de Lascaris, les points de contact entre les deux volumes permettent de conclure que le volume évoqué par Lascaris et celui de l'inventaire de Pio correspondent à un seul et même volume et qu'il contenait le deuxième manuscrit d'Aurapollon possédé par Valla. Malheureusement, le manuscrit a disparu. Donc, Valla possédait deux manuscrits d'Aurapollon, dont un contient le manuscrit G qui appartient à la famille Alpha. Alors, quel texte d'Aurapollon a été utilisé pour la traduction ? Alors, nous avons postulé que, fondée sur un ou plusieurs textes grecs, la traduction de Valla pouvait laisser voir des marques du ou des textes sources. Nous avons donc fait l'hypothèse qu'en nous essayant un examen scrupuleux du texte de Valla, il serait peut-être possible de relever des indices permettant de resserrer le nombre de textes susceptibles d'avoir été utilisés, sinon même d'identifier un texte, le cas échéant. Mutatis mutandis, nous avons un peu procédé comme pour les textes de Galien ou d'Hippocrate, ayant bénéficié d'une transmission par l'arabe. Comme on le sait, ceux qui identifient le texte toujours unique d'un manuscrit et par conséquent son appartenance à une famille, ce sont en particulier, pas seulement, en particulier ses lacunes, ses fautes, ses différences, ses leçons spécifiques. Avec le texte d'Aurapollon, tel que Sbordone nous en a fourni l'édition, nous avons beaucoup de chance. En effet, il existe des différences particulièrement notables entre les différentes familles, et d'abord concernant la forme des lemmes, la forme des titres attachés aux 189 entrées qui se succèdent dans les deux livres. Donc, il y a en gros trois possibilités. Donc, pos, suivi d'un signifiant puis d'un verbe comme semainousine, delousine, graphousine, etc. C'est le cas dans la famille bêta. Dans la famille AH, il y a généralement le signifié au nominatif, parfois à l'accusatif, plus NO caipéri, ou carrément caipéri. Et donc, par exemple, ici, Aion Eno Caipéri Basiliscu, l'éternité, où il est aussi question du basilic, ou bien simplement Nainu Anabasis, un peu plus loin, la crue du Nil. Et la famille, Alpha, qui donne la plupart du temps seulement Péri plus génitif, suivi du signifié. Donc, Péri Anabaseos Nainu. Et elle suit parfois cette famille, dans un certain nombre de cas, elle suit parfois AH, comme dans les deux premiers cas. Voyons maintenant ce que la traduction de Valla nous propose par rapport aux leçons des différentes familles de manuscrits répertoriés. Bon. Il est clair, donc, d'après cet échantillon volontairement raccourci, que vous pouvez voir avec la traduction, que la traduction latine suit un manuscrit qui a beaucoup plus en commun avec la famille AH qu'avec les deux autres, jusqu'à la leçon fautive de Kakistos pour Kratistos, qui est commune à AH et à Alpha. Dans le tableau, la colonne Valla est la traduction terme à terme de la colonne manuscrit AH. En revanche, on retrouve pour les familles alpha et bêta les caractéristiques habituelles de leur lemme, péri plus génitif et pos plus verbe. Bon, c'est une suite particulièrement notable, mais de façon assez systématique, on note, quand il y a une différence sensible entre les familles, que la traduction révèle à ces endroits que c'est AH qui est le plus souvent suivi, comme on vient de le voir. C'est-à-dire que si on la réfère aux possibilités du texte tel que Sbordone nous le fournit, un simple examen de la liste complète des résultats obtenus par les traductions des lemmes par Valla suffirait déjà à montrer que le manuscrit grec de départ n'appartenait ni à la famille alpha, plutôt péri plus génitif, ni à la famille bêta, plutôt pos, suivi du signifiant plus d'un verbe, mais plutôt à celle constituée par les deux manuscrits A et H, qui proposent ou bien le nominatif ou l'accusatif du nom désignant le signifié, ou bien un titre en deux parties. Allons un peu plus loin. En cas de lacune de AH, la traduction, elle, n'est pas restée lacunaire. mais elle révèle que le manuscrit de base peut présenter des leçons venues de la famille Alpha, qui est attendue puisque sur le stéma, elle en est plus proche. Bon, ici, on voit bien que le De Proquitate de la traduction Valla à propos de l'effronterie se retrouve dans la famille Alpha en cas de lacune de la AH. Mais jusque-là, rien que de très normal. Alors en fait, A ou H, ou comment un orapollon peut en cacher un autre, ce serait le sujet de la suite maintenant. Si l'on élargit l'enquête à l'ensemble de la traduction de Valla, elle vient confirmer cette première impression, et là où se confrontent d'un côté les leçons de la famille AH et de l'autre toutes les autres possibles, ce sont bien souvent celles de H qui prédominent, comme on l'a vu dans le premier tableau. Dans l'étape suivante, j'ai essayé de voir s'il était possible de déterminer si le manuscrit ayant servi à Valla était plus proche de A que de H, ou si c'était l'inverse. Là encore, les LEM nous ont offert un point de vue inespéré. Dans la mesure où il faut constamment avoir à l'esprit que nous partons du latin pour tenter d'apercevoir le grec ayant servi de point de départ. À condition que ce soit observable, cela pourrait nous amener à trois conclusions. Ou bien le manuscrit A, ou bien le manuscrit A est la source de Valla, ou le manuscrit H, ou une troisième voie. Nous avons donc trouvé des occurrences qui pouvaient servir de point d'observation privilégié parce que les autres manuscrits étaient trop éloignés du texte latin pour être en cause. Dans le premier cas de figure, nous allons voir que c'est H qui paraît être cette source de Valla. Dans ce hiéroglyphe, la famille alpha, le manuscrit H et la famille bêta s'entendent sinon à la lettre, du moins pour le sens. Dans le titre, seul le manuscrit A dit la même chose que Valla. Vous voyez, c'est assez net. Donc, un homme né beau d'un père qui ne l'est pas, dit Valla, et à propos de l'ours. Un homme né beau d'un père qui ne l'est pas, et à propos de l'ours. Et tous les autres disent, un homme né d'un père difforme. Et là, on se dit que finalement, on a trouvé notre solution. Le problème, c'est que la première ligne du hiéroglyphe, dans le texte, dit ceci dans tous les manuscrits, y compris dans le manuscrit A, voulant signifier un homme né laid à l'origine et devenu beau ensuite. Et alors, Valla, donc, écrit de son côté... Un homme né d'abord difforme, et donc tous les manuscrits, dont A, dit un homme qui, à sa naissance, est d'abord difforme. C'est-à-dire qu'il a scrupuleusement conservé la contradiction beau dans le titre, laid dans le texte, qui existait entre le titre et le corps du texte donné par son manuscrit grec, sans rien corriger comme le sens l'y invitait pourtant quasiment logiquement. À ce moment, on pourrait donc penser que le manuscrit suivi par Valla est plutôt proche de A que de H. Mais ce n'est pas si évident. D'autres occurrences similaires, mais où on a l'inverse, la situation inverse, c'est-à-dire où le manuscrit H joue le rôle du manuscrit A dans l'exemple précédent, c'est-à-dire que Valla suit visiblement le texte correspondant à H contre A, même au prix de contradiction entre le lemme et le texte grec qu'il suit immédiatement, vont nous montrer que se passe autre chose. Donc c'est exactement l'exemple inverse. Nous avons simplement un singulier donc dans le titre et un pluriel dans le texte, et Valla donc est le seul avec le manuscrit H à mettre le singulier dans le titre et à mettre le pluriel aussi dans le texte. Donc là non plus, il ne corrige pas. Donc évidemment, on pourrait multiplier les exemples de la même nature sans pouvoir parvenir à déterminer si la traduction de Valla se rapproche davantage de H ou de A. Il faut donc supposer que son manuscrit rassemble des leçons spécifiques à A et à H, sans que l'un ait la prééminence absolue sur l'autre. C'est donc la troisième voie. Cela nous laisse penser que ce manuscrit de Valla pourrait se placer un peu plus haut dans le stéma, d'autant plus que nous avons déjà signalé des leçons qui viennent de la famille alpha et s'appliquent à la fois contre celle de A et contre celle de H. Donc ça, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Enfin, nous avons pu noter la présence de caractéristiques significatives de L, vous savez, ce petit manuscrit dont il ne reste que deux folios, et qui est plus haut encore dans l'arbre, dans le stéma. Ce manuscrit donc fragmentaire, qui s'interrompt au début du dixième hiéroglyphe, a pour particularité principale de ne donner aucun titre. Or, justement, la traduction de Valla ne donne pas de titre de 1,7 à 1,10, ce qui ne renvoie qu'à la pratique du manuscrit L. Tous les autres donnent des titres. Dans la traduction, cette spécificité se retrouve irrégulièrement dans les deux livres en certaines occurrences, où tous les manuscrits grecs ont des titres, Et même la division en deux livres a complètement disparu dans le manuscrit milanais de la traduction de Valla. On pourrait donc supposer que ce sont là des rémanences de L, puisque L ne portant aucun titre dans les 10 premiers hiéroglyphes, cela laisse supposer qu'il en est de même dans toute la suite. Enfin, il y a un détail concret qui va dans ce sens. Dans la traduction, le tout premier hiéroglyphe commence ainsi. Aegum significantes, aegypti, solem, lunamque, depingebant. Plus exactement, la traduction de Valla nous donne ça. Et il y a un seul manuscrit qui donne ça exactement, c'est le manuscrit L. Aegyptioi n'est donné par aucun autre manuscrit. Il faut attendre deux lignes supplémentaires pour qu'il soit fait mention des Égyptiens dans les autres manuscrits. Valla semble traduire ici le texte du manuscrit L pour qu'il est impératif que le mot Aegyptioi soit présent, dans la mesure où L ne possède pas non plus l'introduction au texte grec où il est question de Philippe, traducteur d'Aurapollon, et qu'il est nécessaire qu'il y ait un sujet grammatical identifié pour commencer à lire L et à comprendre qui est le « il » du premier verbe. Bon, puis il y a une dernière chose qui est... donc, je vais conclure là-dessus et puis montrer juste... c'est presque un cadeau pour toi, tu vas voir. Il est donc clair qu'il existait un manuscrit aujourd'hui perdu et présentant un texte rassemblant des caractéristiques à la fois de L, de A, de H, mais aussi d'autres manuscrits d'alpha. Ces traits nous paraissent placer ce manuscrit plus haut que AH sur l'arbre du stéma. Possédant des caractères englobant A et H, certains autres propres à L, dont l'absence des titres, mais non généralisés, ce manuscrit, que nous appellerons Valla 1, pour reprendre la terminologie que Sbordon donne aux traductions latines, nous paraît pouvoir être positionné entre AH et le point de divergence entre le point de divergence vers L et alpha. Bon, puis il y a une dernière chose et qui est qui pose plus de questions finalement. Voilà, ça c'est la première page des Hieroglyphica traduit par Valla. Et vous lisez que ce texte, eh ben c'est Philippus Megarensis qui l'a traduit. Et ça, ça n'est donné nulle part. C'est-à-dire que dans sa présentation, où Valla reprend stricto sensu tout ce que nous connaissons, jusqu'à transtulit, c'est ce que j'ai écrit en grec, eh bien, il ajoute juste un... Bon, après, il présente sa traduction, ce qui est assez logique, mais il suit mot à mot, à la lettre, le texte d'Aurapollon, mais il ajoute ici Megarensis. Or, Philippus Megarensis, c'est un obscur post-socratique, datant de l'époque des Diadoques, et dont il est question, sans qu'on ait d'œuvre particulièrement, dont il est question dans Diogène Laërce. Et il me semble que, dans la mesure où on peut croire Valla, c'est quelque chose de tout à fait qui irait dans le sens de ce que tu nous disais, Jean-Luc, finalement, c'est-à-dire d'une fiction. Puisque Philippus Megarensis, c'est un philosophe, en fait, de l'époque des Diadoques, de la grande époque de la bibliothèque d'Alexandrie, donc de l'Égypte, et mettre sous le nom de Philippus Megarensis le texte d'Aurapollon, c'eût été finalement une véritable opéa sur la grande époque grecque et égyptienne à la fois. Je m'abstiendrai de conclure.
Nous remercions vivement Stéphane Rollet pour cette belle lecture de la tradition gréco-latine d'Aurapollon, avec la tradition aussi des textes de référence pour Valla. Et je dirais que vraiment votre communication nous a permis de satisfaire ce vœu « Ne animus marcescas torpente corpore ». Bon, voilà, nous avons bien commencé et nous restons fidèles donc à cette tradition que vous avez si bien illustrée. Et s'il y aura du temps, on pourra peut-être recueillir la discussion à la fin de la matinée. Hein, et nous avançons maintenant dans le programme.